Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. Le vendredi, c'est un sujet d'actualité avec nos partenaires du Monde, c'est Marc Semo. Bonjour Marc. On va parler ce matin de la Turquie. Le week-end dernier, Moscou et Washington se sont mis d'accord pour un cessez-le-feu en Syrie. Entré en vigueur lundi soir, il a été prolongé hier, ouvrant la voie à de possibles frappes conjointes des États-Unis et de la Russie contre les groupes djihadistes. Du côté turc, nul doute que la récente intervention de l'armée dans le nord syrien, qui a permis de reprendre un certain nombre de localités à Daesh, a redistribué les cartes et devrait peut-être conférer à Erdogan un certain pouvoir d'influence dans les futures négociations internationales, alors que la politique syrienne turque depuis le début du conflit, on le sait, s'était avérée désastreuse. Sur le plan intérieur aussi, Erdogan revient dans le jeu politique, puisque deux mois après le coup d'État raté, c'est depuis sa prison au large d'Istanbul que le chef historique du Parti des travailleurs du Kurdistan, Öcalan, a fait savoir que le conflit entre les rebelles kurdes du PKK et Ankara pourrait être réglé en 6 mois. Voilà donc un Erdogan redevenu très solide sur le plan intérieur. D'ailleurs, sa cote de popularité a été dopée par le putsch militaire manqué. Mais aussi donc sur la scène internationale. Erdogan, retour au centre du jeu. Point d'interrogation, c'est notre sujet ce matin. Pour l'aborder, deux invités, Yohanan Benaim, qui n'est pas encore avec nous. En revanche, Ahmet İnsel, qui est déjà avec nous. Bonjour Ahmet İnsel.
Bonjour.
Vous êtes économiste et un spécialiste de la politique turque. Avant de nous interroger sur cette Turquie et sur Erdogan, qui reviendrait donc au centre du jeu, place à notre retour d'eux, en association avec le prix Albert Londres. Le journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient de Syrie, de Turquie, du Pays-Bas, des États-Unis, de la Belgique.
Là, ce sont les combats contre la 17e division du régime, auxquels j'ai participé. Je filmais, je tournais les combats quand les soldats du régime ont pris la fuite, comment on les a encerclés et comment on les a fait prisonniers. Il y avait plus de 5 caméramans sur le terrain. À chaque fois, une fois le tournage terminé, un gars du bureau des médias ramassait toutes les cartes mémoire et il les emmenait à Raqqa. Tu peux pas imaginer à quel point ils sont en avance. Quand tu rentres dans leur bureau, tu as l'impression de pénétrer dans les studios d'une grande production internationale. C'est un centre énorme, avec un studio d'enregistrement, un studio radio et un studio de tournage. D'après moi, c'est le bureau principal des médias de Daesh. Dans cet endroit, on peut décider du sort des gens. C'est plus qu'un studio de la terreur, ça peut être un studio de la mort à tout moment. Une image peut décider du sort d'une personne.
Bonjour Alexis Marant.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste, vous êtes réalisateur pour la société Kappa. On vous reçoit pour ce documentaire dont on vient d'entendre un extrait, Le Studio de la Terreur, qui sera diffusé bientôt sur Canal+, la semaine prochaine.
Mardi soir.
À
20h55. À
20h, voilà, parfait. Et vous êtes par ailleurs, d'ailleurs je l'indique, prix Albert Londres, puisque nous sommes en partenariat avec l'association des prix Albert Londres. Vous avez donc réalisé cette enquête sur le système de propagande de l'État islamique. Vous avez recueilli des témoignages de ceux qui ont produit, ont diffusé des images dans l'optique notamment évidemment d'attirer dans leur rang peut-être de nouvelles recrues. Comment s'est construite cette machine médiatique? C'est un peu la question à laquelle vous avez essayé de répondre. Pourquoi est-ce que vous avez voulu faire ce film sur la stratégie communicationnelle de Daesh?
Il nous est apparu qu'à partir du moment où le califat a été proclamé le 29 juin 2014, que la propagande de Daesh se singularisait vraiment de ses prédécesseurs par son professionnalisme, son ampleur, son volume de production aussi, et ses références claires au code de notre culture populaire occidentale, et donc on a pensé que c'était très important d'abord pour nous-mêmes déjà d'en savoir plus et puis d'en faire profiter aussi le public.
Comment est-ce qu'on fait justement pour en savoir plus? Parce que par exemple votre documentaire s'ouvre sur un homme, Ziad, qu'on va suivre tout le long du documentaire, qui a travaillé donc pour la propagande de Daesh à Raqqa, le fief syrien. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qui il est, comment est-ce que vous l'avez rencontré et pourquoi il a accepté de vous parler?
Oui, alors effectivement, une des particularités du film, c'est qu'il y a déjà eu quelques reportages, voire quelques documentaires sur la propagande de l'État islamique, mais il n'y en a aucun qui met en scène des repentis ou des anciens collaborateurs de la machine de propagande de Daesh. On a vu des combattants en repentis, mais on n'a pas vu d'anciens caméraman, technicien, propagandiste à l'image. Et c'était un peu le, c'était un des défis principaux du film pour nous, c'était de retrouver ces témoins. Pour ça, effectivement, on s'est donné du temps. Canal Plus aussi a mis beaucoup de moyens dans ce film parce que
c'est de longs mois d'enquête.
Hein. C'est 18 mois de travail, ouais. 18 mois de travail, et c'est aussi comme ça qu'on peut finir par arriver à trouver ces témoins qu'avec moins de moyens et moins de temps, on aurait beaucoup de mal à avoir, hein, puisque finalement ces témoins, il y a en tout quatre djihadistes repentis, en tout cas pas forcément repentis du djihad, mais repentis de l'État islamique, qui témoignent dans le film, et il a fallu de longs mois d'enquête et plusieurs informateurs sur le terrain, fixeurs comme on les appelle dans notre métier, pour les identifier, les trouver, vérifier aussi qu'ils étaient bien qui ils disaient, qu'ils étaient bien les personnes qu'ils disaient être. Et puis en ce qui concerne Ziad, effectivement, Ziad c'est un jeune homme de Raqqa, comme il y en a beaucoup dans la machine de propagande de Daesh, qui a un parcours assez classique finalement pour ce qui concerne les Syriens qui ont rejoint l'État islamique, c'est-à-dire jeune étudiant qui s'est investi dans la révolution dès le départ, qui a subi des déconvenues par rapport à l'Occident, qui a subi des déconvenues par rapport à l'armée syrienne libre, notamment dans la région de Raqqa où il y a eu beaucoup d'exactions, de raquettes, de débordements, et qui se sont petit à petit rapprochés finalement des groupes islamistes, puis djihadistes, et puis ensuite effectivement de l'État islamique qui est arrivé qui a tout de suite mis une empreinte très très forte sur le combat contre Bachar al-Assad. En tout cas, au début, c'était leur affichage quand ils sont arrivés en Syrie. Après, on a vu que finalement, ils étaient assez ambigus et que leur cible prioritaire n'était pas forcément que le régime de Bachar.
Alors, ce que vous dit Ziad, c'est quand il arrive dans ces studios mis à disposition pour les djihadistes, il est absolument abasourdi par les moyens techniques qui sont mis à disposition. Il n'avait jamais vu ça. Parce que, évidemment, la terrible efficacité de la propagande de Daesh, c'est, on le sait, l'utilisation des codes esthétiques modernes, occidentaux, hollywoodiens. D'ailleurs, vous êtes allé à Hollywood, on va en parler, mais c'est aussi ses moyens. Donc, le système média de Daesh, vous expliquez ça très bien dans votre document, il recouvre 6 pôles, religion, presse en ligne, radio, info locale, et puis 2 labels de production-diffusion qui sont Al-Furqan et Al-Hayat. Chacun de ces médias, de ces labels, possède donc sa spécialité, et le tout se structure autour d'une trentaine de bureaux.
Et on 35.
A donc 35 bureaux, donc on a une superstructure qui permet de produire, de diffuser quasiment près d'un millier de contenus par mois. Donc on est sur des taux absolument colossaux. Comment est-ce qu'a fait Daesh pour parvenir à développer un tel système médiatique ? Comment est-ce qu'on fait pour petit à petit arriver à ce dispositif ?
Ils sont arrivés tout de suite très fort dans tous les domaines. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 35 ans d'histoire du djihad derrière, et il y a aussi quasiment 35 ans d'histoire du djihad médiatique derrière. Donc la prise de conscience de l'importance du djihad médiatique dans le djihad global, elle était déjà là, elle a été installée et elle a été théorisée par plusieurs théoriciens du djihad. Et c'est Al-Qaïda d'ailleurs qui l'a mise en œuvre, puisque c'est Al-Zawahiri, le successeur de Ben Laden, qui déjà dès 2005 avait déclaré que le djihad médiatique était 50%
c'est la moitié du djihad. Ouais.
Donc si vous voulez, voilà, c'est quelque chose qui a été intégré dans l'histoire. Et après, au niveau des moyens et de la stratégie de Daesh, c'est clair que dès le départ, ils avaient pour ambition, en dehors de la conquête militaire, de frapper très fort médiatiquement, parce qu'ils avaient pleinement conscience, effectivement, donc de l'efficacité de la propagande, qu'ils avaient besoin d'attirer des recrues, de se différencier, de se démarquer par rapport aux autres groupes djihadistes aussi, que ce soit au niveau local ou même au niveau international. Et puis, je perds un peu le fil, mais
il y a une chose qui est très intéressante dans votre documentaire que je voudrais qu'on évoque ensemble, c'est que en réalité, il y a une stratégie aussi qui est intéressante, c'est que on produit une multitude de films, et puis on sélectionne d'une certaine manière les meilleurs, et ensuite on va mettre le paquet sur ceux-là, on va les optimiser, on va mettre des gros moyens pour à la fin sortir, j'allais dire, les pépites, je mets des guillemets, mais c'est un peu ça l'idée qu'il y a.
Absolument.
Derrière.
Ils essayent de créer une forme d'émulation, en fait, entre les différents bureaux provinciaux. Il y a une espèce de compétition qui s'instaure parfois sur des thématiques. Alors, c'est pas systématique. Il y a aussi des films qui sont vraiment initiés d'en haut, notamment la plupart des grosses vidéos qu'on a pu voir. Mais il y a aussi cette émulation qui est créée, notamment par Al-Adnani, donc l'émir qui s'occupait des médias et qui a été tué fin août par un drone américain. Mais qui disait, tiens, par exemple, hop, les attentats du 13 novembre à Paris, faites-nous des vidéos de célébration. et on diffusera la meilleure. Donc chaque bureau régional, on l'a vu très nettement après le 13 novembre, on a vu sortir une douzaine de vidéos faites par différents bureaux provinciaux, dont certaines ont été mieux promues sur les réseaux sociaux que d'autres qui sont restées sur une diffusion plus locale. Et donc on voit très bien qu'il y avait une espèce de compétition comme ça à celui qui fera le meilleur film de célébration des attentats du 13 novembre, comme pour ceux de Nice, comme il y en a eu aussi à d'autres occasions.
Et comme il y en a eu aussi notamment cette vidéo absolument terrifiante de l'exécution du pilote jordanien qui a été fait prisonnier par Daesh et qui avait particulièrement choqué le monde. Il avait été immolé par le feu dans une cage sous le regard des forces spéciales djihadistes. Vous avez rencontré donc un ex-émir de Daesh qui était sur place quand la vidéo a été tournée. Et ce qu'il vous dit, c'est que c'est Abu Abderrahman Al-Amriki qui a fait ces images, qui est un Américain blanc qui travaillait à Hollywood.
C'est ça. C'est un peu la grosse révélation du film. On savait, si vous voulez, on soupçonnait qu'il y avait un certain nombre d'occidentaux, des professionnels des médias, aussi d'ailleurs certains professionnels issus des chaînes de télévision du Maghreb ou des pays du Golfe. Mais là, effectivement, on apprend dans le film, et moi-même, j'avoue que j'aurais jamais imaginé cet effet boomerang à ce point-là, que un des propagandistes en chef, notamment ce qui concerne les vidéos, est un Américain, effectivement, que nous avons essayé d'ailleurs après d'identifier. On n'avait que son nom de guerre, hein, Abu Abderrahman Al-Amriki. On a fait des recherches, mais c'est vrai qu'on s'est heurté à un refus total des autorités américaines, FBI, CIA, NSA, de collaborer, de nous éclairer sur la réelle identité de ce personnage. Il n'en reste pas moins que c'est effectivement, il s'avère que c'est probablement le réalisateur en chef des gros films de propagande de Daesh, et notamment ceux qui concernent vraiment les films de terreur, c'est-à-dire ceux qui s'adressent au public occidental.
Et puis celui qui va enflammer d'ailleurs le pilote dans la vidéo dont je parlais, c'est Abu Mohamed Al-Annani, vous l'avez dit, donc bras droit d'Al-Baghdadi, porte-parole de l'État islamique, dont on a appris effectivement qu'il était mort sous les frappes d'un drone américain. Et c'est lui qui ordonnait ces mises en scène de meurtres, de tortures. C'est le patron, d'une certaine manière, de ce fameux studio de la terreur.
C'est l'autre révélation du film qui a été un peu éventée, parce qu'à l'occasion de la mort d'Al-Adnani, et juste avant, il y a eu un article dans le New York Times qui est paru et qui raconte effectivement qu'il avait aussi une forte responsabilité effectivement dans la structure de la machine de propagande, et qu'il était aussi un peu celui qui effectivement trouvait les idées, trouver des mises en scène d'exécution, parce qu'il y a cette idée aussi de toujours promouvoir l'horreur, mais aussi de créer de la nouveauté pour pouvoir continuer à susciter l'intérêt du public. Et c'est lui l'artisan de tout ça.
Alors, Abu Abderrahman, l'Américain, donc justement, qui vient d'Hollywood, vous êtes allé justement à Hollywood pour comprendre finalement comment l'industrie cinématographique américaine, dont s'inspire tant Daesh, perçoit cette récupération des codes qu'elle fabrique elle-même. Vous rencontrez un homme qui s'appelle Jack Shaheen, qui est professeur émérite, qui a travaillé de longues années sur cette question de la représentation des Arabes et des musulmans au cinéma et à la télévision. Et pour lui, clairement, le cinéma américain a une responsabilité en ce que les Arabes ont toujours été représentés avec dénigrement, condescendance, on les montre comme des gens particulièrement violents, enfin tous les bons clichés orientalistes classiques. Et d'une certaine manière, ce qu'il vous dit, c'est que la propagande de Daesh est aussi une réponse, une vengeance à ces stéréotypes qui sont construits à Hollywood.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que nous-mêmes, on a tous vu ces films comme True Lies, comme Le Retour vers le futur, comme ces séries comme 24 heures Homeland. Mais il faut se mettre dans la peau, en fait, d'un arabe ou d'un musulman, notamment au Proche-Orient, pour réaliser en fait l'impact que ça peut avoir et ce sentiment peut-être un peu de persécution que ça peut créer chez eux dans la représentation systématique qu'on fait de cette région et de ces personnes de façon négative, comme étant des gens systématiquement violents, systématiquement intégristes, islamistes. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans les conversations que j'ai eues avec ces djihadistes, cette envie de revanche aussi qu'ils prennent à travers la propagande, en étant cette fois-ci eux les artisans, si vous voulez, de et nous les victimes, entre guillemets.
L'actualité ici à Paris, en France, des récentes arrestations de réseaux de femmes qui s'apprêtaient à commettre un attentat a remis un peu sur la table la question du rôle et de la place des femmes dans le djihad. Et là aussi, il y a une propagande qui leur est spécifiquement dédiée. On le voit très bien dans votre film. Il y a un expert néerlandais qui vous explique ça. On voit notamment des films où des gens prennent soin des populations, des femmes, des enfants. On voit des images d'un médecin qui soigne des enfants à l'hôpital. On voit un homme qui promène sa petite fille en barque paisiblement. Donc on voit qu'il y a évidemment finalement des cibles quasiment à ces films-là. Et alors peut-être la nouveauté qu'on voit dans les films de propagande qui sortent depuis quelque temps des studios de la terreur, c'est celle qui met en scène des enfants.
Absolument. Oui, c'est quelque chose de c'est un vrai virage qu'ils ont pris et qui est quelque part l'annonciation, je pense, sans vouloir le dire parce qu'il est hors de question pour eux de d'admettre qu'ils sont sur le point d'être défaits en Syrie ou en Irak, mais quelque part en mettant en scène systématiquement des enfants dans les vidéos, et ça on le voit très fortement depuis un peu moins d'un an. L'idée c'est de dire que de toute façon, quoi qu'il se passe, il y aura toujours une relève et il y aura toujours une suite, et que c'est pas parce que ils seront vaincus militairement sur le terrain qu'on sera débarrassé d'eux. Allez, et pour revenir aussi donc à ces vidéos de propagande, c'est vrai que l'autre aspect par rapport aux moyens qui sont consacrés, c'est ça, c'est que la nouveauté avec Daesh, c'est que ils veulent promouvoir un djihad de masse. Donc c'est pour ça que ils ont des vidéos ciblées pour différents publics et notamment pour les femmes, pour les familles, pour que ça puisse être un projet, pas uniquement pour des combattants.
La question qui fâche, Alexis Marron. L'objectif de Daesh, évidemment, c'est de nous atteindre par toutes ces images d'horreur. Et nous, d'une certaine manière, on tombe un peu dans le piège parce qu'on les regarde, on s'y intéresse, on en parle en ce moment, ce matin. Comment est-ce qu'on fait quand on est journaliste pour ne pas tomber dans ce piège-là? Est-ce que vous vous êtes demandé si finalement, en décortiquant justement cette stratégie de communication, vous ne serviez pas, je mets des guillemets, mais les intérêts de Daesh? Comment est-ce qu'on répond à ce questionnement quand on est journaliste et qu'on fait ce type d'enquête?
Alors, vous imaginez bien que dès le départ, ça a été une question fondamentale pour nous. On a on s'est beaucoup interrogé à la fois avec les producteurs de Kappa, avec le diffuseur Canal+, sur la façon dont on allait dealer avec cette problématique. Si vous voulez, d'abord, il y a une chose qui est très importante à comprendre, qui est fondamentale, c'est que l'État islamique n'a pas besoin de nous pour que sa propagande soit vue. Et c'est là, je pense, qu'il y a un petit, une petite méconnaissance de certains observateurs par rapport à ça. C'est que ça n'est pas nous, journalistes, en mettant quelques extraits de films de propagande de l'État islamique, qu'on va faire leur travail, parce qu'ils n'ont vraiment pas besoin de nous. Et que ça, c'est les jeunes auxquels ils s'adressent. De toute façon, ils ne regardent pas nos médias non plus. Ils sont sur les réseaux sociaux. Donc la cible n'a pas besoin de nous.
La cible, de toute façon, est atteinte.
Voilà. Deuxièmement, je pense que quand on regarde le film, on arrive à voir que ces images ne sont pas livrées gratuitement. Elles sont toujours entourées d'analyses, de décryptage. Et je pense qu'il faut, à un moment, il faut accepter de voir cette propagande pour la comprendre. On fantasme beaucoup dessus, on en parle beaucoup. On passe parfois des très très courts extraits dans les sujets de news à la télévision. Mais on ne raconte jamais comment elle est faite et comment il y a un storytelling dans les films. On s'arrête systématiquement qu'aux scènes les plus horribles, mais il faut bien comprendre que ces vidéos sont beaucoup plus riches, entre guillemets, que ça, et qu'il faut, pour pouvoir les comprendre, les décrypter, les montrer un peu aussi dans leur durée. Allez-y.
Ce que vous faites, oui, dans ce documentaire, Le Studio de la Terreur, qui sera diffusé sur Canal+, mardi prochain.
À 20h55.
Merci beaucoup, Alexis Marron.
Merci à vous.
Instant un prix Albert Londres, j'en profite pour rappeler que mardi prochain, le 20 septembre, justement, à 16h30 à la SCAM, sera organisée des discussions autour de ce thème. Et si on parlait d'un tabou, le retour des journalistes des terrains de conflit, une personne sur trois confrontée à la mort violente serait atteinte de syndrome post-traumatique. Les journalistes en particulier se murent souvent dans le silence. Et pour lever le voile sur ce drame trop méconnu, eh bien, le prix Albert Londres organise cet après-midi de réflexion sur le sujet. Ça sera donc avenue Velasquez dans le 8e à Paris, mardi prochain à 16h30. Pour ceux qui veulent s'inscrire, participer, assister à tout cela, ils peuvent aller réserver leur place. On va passer à notre table ronde et on s'intéresse tout de suite à la Turquie.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Alors on a déjà ici évoqué le fait que le pouvoir turc s'était retrouvé finalement renforcé par le coup d'état manqué du 15 juillet dernier. À la fin du mois d'août, Ankara a lancé une offensive militaire dans la zone nord de la Syrie voisine, enregistrant des succès notables. De fait, cette intervention a rebattu les cartes et peut-être replacé la Turquie dans le jeu des acteurs qui entendent peser sur le futur de la Syrie. Plus encore, depuis que les États-Unis et la Russie se sont mis d'accord récemment, le week-end dernier, sur une trêve entrée en vigueur lundi dernier.
Aujourd'hui, les États-Unis et la Russie annoncent un plan qui, nous espérons, va réduire la violence, soulager la douleur et reprendre le mouvement vers une paix négociée et une transition politique en Syrie. Nous croyons que le plan tel qu'il est énoncé, s'il est appliqué, s'il est suivi des faits, aura la capacité de fournir un virage pour un changement.
Il y a 5 documents au total qui permettent d'organiser une coopération efficace dans la lutte contre le terrorisme, qui permet d'élargir l'accès humanitaire aux populations dans le besoin et tout d'abord à Alep pour principalement améliorer la cessation des hostilités.
Voilà, on entendait John Kerry et Sergueï Lavrov, une trêve qui pour l'heure semble tenir et que le président turc a immédiatement salué tout en espérant qu'elle serait permanente. Alors qu'on assistait ces derniers temps à l'ostracisation d'Erdogan, autant sur le plan intérieur que sur la scène internationale, on va s'interroger sur un possible retour du président turc au centre du jeu politique. Nos invités ce matin, Ahmet İnsel et Yohanan Benaim, qui est arrivé dans le studio, que je salue. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences politiques à Paris 1. Alors on va faire comme à chaque fois, on va commencer avec notre partenaire du monde, Marc Semo. Alors Marc, on se souvient, le printemps avait été particulièrement rude, compliqué pour Erdogan. Les relations avec la Russie, on s'en souvient, c'était considérablement tendu. Depuis, il a rencontré Poutine à Saint-Pétersbourg. Le pays subissait aussi des attentats sur son sol, tantôt l'EI, tantôt le PKK. Durant l'été, il y a eu ce putsch manqué qui lui a permis d'engager des purges et de renforcer d'une certaine manière son pouvoir. Sur le plan militaire, je le disais, il y a cette intervention dans le nord de la Syrie qui a été quand même un succès puisqu'il a permis de faire reculer l'État islamique, mais aussi, et peut-être surtout d'ailleurs, d'empêcher les Kurdes d'unifier ces territoires du nord. Tout cela devrait peut-être conférer du poids dans les futures discussions internationales sur la Syrie. À cela s'ajoute, je le disais tout à l'heure pour engager l'émission, l'appel d'Öcalan pour la paix, qui refait là aussi d'Erdogan un acteur légitime, attendu pour la paix avec le PKK. On se souvient que les forces kurdes ont fait les frais, bien sûr, des offensives lancées dans le sud-est du pays, qui est une stratégie du chaos qui lui avait permis d'éviter la débâcle électorale lors des législatives de septembre 2015, sachant que celle de juin lui avait pas permis de créer une majorité. Il n'y a pas si longtemps, Marc, Erdogan était très isolé, très ostracisé. Leur voilà au centre du jeu.
Et dans la nuit du putsch, du 15 au 16 juillet, en arrivant à Istanbul, juste après avoir échappé de très peu aux mutins, il a eu cette phrase à propos du coup d'État. « C'est un don de Dieu ». Alors évidemment, ça nourrit toutes les théories du complot. Évidemment, s'il y avait eu complot et mise en scène, il ne l'aurait pas dit. Mais ça montre à quel point Recep Tayyip Erdogan, qui est un redoutable politicien, a su se saisir de l'occasion. Alors effectivement, ce coup d'État était le premier coup d'État raté de l'armée. Alors bon, faut relativiser parce que c'était très peu d'hommes. C'était une vingtaine d'avions, une vingtaine d'hélicoptères, 50 chars, 500 hommes au maximum. Mais c'était quand même un vrai coup d'État, mené par probablement par cette confrérie néo-islamiste de Fethullah Gülen qui a raté. Mais voilà, Erdogan devient le héros de la démocratie, entre guillemets, ou du moins de la lutte pour la souveraineté du peuple. Donc il est au centre du jeu. Les deux principaux partis du Parlement et celui de la gauche, le Parti républicain du peuple, et l'opposition de droite, le MHP nationaliste, le soutiennent. Cette unité nationale, le 7 août, il y a une manifestation à Istanbul où il y avait des centaines de milliers de personnes, voire même 2 millions, dit la presse du pouvoir. Il est au centre du jeu. Cette union nationale se fait à la fois contre la confrérie de Fethullah Gülen, mais aussi contre le mouvement nationaliste kurde. Et il a l'occasion de purges massives, hein, 100 000 personnes chassées ou suspendues ou chassées de la fonction publique, il gouverne par décret, il y a un état d'urgence, donc il y a un véritable reformatage de l'État. Hein, ça a touché globalement 3% de la fonction publique, d'une manière ou d'une autre. C'est contre les gulenistes, mais aussi contre ceux qu'on accuse d'être proches du PKK. 40 000 arrestations, c'est énorme. Il y a des confiscations d'universités, d'écoles qui appartiennent aux gulenistes, hein, pour plus de 10 milliards d'euros. Donc on est en interne, donc il arrive, il est en mesure maintenant de faire la République présidentielle qu'il appelle de ses voeux, et surtout aussi en externe, sur la Syrie. Hein, les Russes lui ont permis de faire avec cette intervention cette zone de sécurité au nord de la Syrie que la Turquie appelle de ses voeux depuis 4 ans. La France a soutenu la Turquie d'ailleurs toujours là-dessus. Les Américains ont refusé. C'est un énorme fiasco de ce point de vue de l'administration américaine, parce que si cette zone de sécurité avait été faite, il n'y aurait pas eu autant de réfugiés. On aurait pu réorganiser les forces de la rébellion non djihadiste. Et donc effectivement, plus que jamais, il est au centre du jeu, même si aujourd'hui, en interne, beaucoup de voix s'élèvent contre les excès de la répression, que l'unité nationale se fissure et que, évidemment, aussi bien l'État islamique que les Kurdes sont toujours en train de continuer leur lutte et donc il y aura malheureusement d'autres attentats.
Ahmed Nissel, Marc disait « don de Dieu » à propos de ce putsch manqué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce don de Dieu, il a totalement modifié la politique syrienne de la Turquie.
Oui, déjà il était en cours. Déjà il était en cours avec le rapprochement avec la Russie, puisque le rapprochement avec la Russie a commencé avant le coup d'État. Mais c'est vrai que le coup d'État a accéléré les choses dans le sens où l'armée turque, il faut d'abord souligner ça, l'armée turque est devenue totalement dépendante du pouvoir politique, puisque la résistance de l'armée turque pour intervenir dans la Syrie était aussi un facteur. C'était pas simplement les Russes, etc., qui bloquaient l'intervention. L'armée turque n'est pas tellement une armée aventurière. Et l'armée turque ne voulait pas tellement rentrer en Syrie. D'ailleurs, maintenant, le gouvernement accuse les officiers, il y a énormément d'officiers arrêtés, le tiers des généraux sont arrêtés, et il essaye de mettre sur le dos de la communauté gulen en disant ce sont les officiers gulenistes qui torpillaient la politique syrienne de la Turquie. Mais avec la Russie, le rapprochement a commencé à peu près en printemps dernier. Et puis la Turquie a commencé à donner, après le changement de gouvernement, c'est le départ du premier ministre Ahmet Davutoğlu, je crois que a été aussi un signal dans le changement de la politique syrienne. Parce que lui, il était vraiment dans une politique disons de grandeur de la Turquie, retrouvailles dans les aller prier à Damas ensemble dans quelques mois, etc., dans une logique néo-ottoman de grandeur, où la Turquie va venir et les Arabes vont les accueillir bras ouverts, etc. Le premier ministre actuel est un technicien, est un ingénieur de bâtiment, je crois, et il est totalement pragmatique là-dessus, et il y a eu rapidement un changement. Par exemple, avant le coup d'État, au mois de juin, la Turquie, pour la première fois dans la bouche des dirigeants turcs, des ministres, on a commencé à dire, après tout, la présence de Bachar Esad autour d'une table de négociation est envisageable. Ce qui, jusque-là, était totalement le tabou du gouvernement turc.
Oui, ce qui veut dire que d'une certaine manière, et je me tourne vers vous, Yohanan Benaïm, le différent autour, effectivement, de l'avenir de Bachar Al-Assad dans la transition future de la Syrie, bien peut-être que là désormais Moscou et Ankara sont en train d'aligner leur position, Yohanan Benaïm.
Oui, alors le rapprochement de la Turquie avec la Russie a eu pour principal effet, comme ça vient d'être dit, de permettre à la Turquie d'intervenir de manière plus importante en Syrie. Sans ce rapprochement-là, ça aurait été impossible pour la Turquie d'intervenir en Syrie, puisqu'il y avait cette menace d'une représailles turque. Russe, excusez-moi, puisque la Turquie avait abattu un avion russe dans les mois précédents. Alors, qu'est-ce que ce rapprochement, vers où ce rapprochement va? Il permet, voilà, à la Turquie d'empêcher les YPG, donc la branche syrienne du PKK, de faire un continuum territorial le long de la frontière turco-syrienne. Et la Russie n'a pas exprimé de mécontentement par rapport à cette intervention, mais a juste indiqué que cette intervention ne devait pas pousser la Turquie à s'avancer vers Alep, et donc à soutenir les forces d'opposition contre le régime. Par rapport à cela, il est Ce que montre, en fait, ce qui est extrêmement important à souligner, c'est que ce rapprochement turco-syrien a pour principale conséquence, en fait, de rapprocher la Turquie et la Russie sur le dossier kurde. Et l'objectif de la Russie est, à moyen terme, de pouvoir être l'acteur international qui met à la table des négociations Turquie et Syrie pour débattre ensemble de la question kurde. Mmh. Et là, on a un vrai... c'est sur cette question kurde que va se jouer... va se jouer la position de la Turquie à l'avenir, ce qui pose deux questions. Premièrement, dans quelle mesure est-ce que cette intervention-là ne risque pas à moyen terme une reprise du dialogue sécuritaire entre l'État turc et le régime syrien sur cette question kurde afin de contrer le PKK ? Et deuxièmement, et ce qui pose bien entendu la question de la crédibilité d'une relance du processus de paix à terme, et deuxièmement, quelle serait la position de la Turquie dans cette nouvelle configuration ? Et est-ce que la Turquie continuerait à soutenir autant l'opposition syrienne.
Ouais, on va revenir évidemment sur la question kurde et puis on reviendra notamment sur la politique étrangère de la Turquie vis-à-vis de la région autonome du Kurdistan d'Irak, puisque c'est votre sujet de thèse et que c'est évidemment central dans tout ça. Marc Semo.
Oui, alors on a l'impression qu'aujourd'hui, les Russes non seulement sont les patrons du jeu, donc ils ont fait l'intervention militaire depuis un an. Aujourd'hui, ils sont en passe de jouer les casques bleus. Hein, c'est eux qui sont en train de dire on va assurer la sécurité de la route de Castello qui permettra à l'ONU de porter le ravitaillement à Alep. Et que dans cette opération, il y a quasiment un espèce de jeu commun de la Turquie et des Russes pour, globalement, sortir du conflit. Ou du moins arriver à geler les choses. Le deuxième point, c'est qu'on a aussi l'impression que par rapport au jeu kurde, il y a une convergence aujourd'hui contre les Kurdes syriens, qui, à la différence des Kurdes irakiens, sont assez incontrôlables, très radicaux, liés au PKK turc, mais ont eu, d'une certaine façon, les yeux beaucoup plus gros que le ventre, que les Kurdes syriens gênent tout le monde. Ils gênent les Turcs, évidemment. Ils gênent le régime syrien. Ils gênent l'opposition syrienne qui les a toujours accusés d'être des collabos du régime. Ils gênent l'Iran, qui craint lui aussi les métastases. Et les Russes, qui n'ont pas envie d'une Syrie qui éclate. Et que donc, aujourd'hui, il y a cette espèce de convergence massive pour arriver à trouver une solution qui maintienne, d'une manière ou d'une autre, l'ensemble de la Syrie.
Ahmet Insel.
Il y a, par rapport à ce que vient de dire Marc, il faut simplement ajouter que les Kurdes de Syrie, notamment des forces de YPG, ont bien conscience de ça et d'une manière très significative, hier ou avant-hier, sur certaines positions tenues par YPG, ils ont mis le drapeau américain, ce qui a immédiatement fait la réaction du gouvernement turc et le porte-parole américain était un peu gêné en disant c'est pas avec notre agrément, etc., etc. Donc c'était une manière pour montrer qu'ils étaient avec les Américains ou les Américains étaient avec eux et aussi peut-être pour se protéger d'une action possible de l'armée turque ou de forces armées syriennes, de forces libres syriennes. Il y a une troisième acteur, c'est toujours les Américains, évidemment, où ils ont une position plus ambivalente par rapport aux Kurdes de Syriens, puisque eux, ils considèrent toujours les Kurdes syriens à juste titre, d'une certaine manière, comme la seule force qui a été capable jusque-là de mater le Daesh depuis la dernière année. Et actuellement, les forces américaines, les États-Unis ont une position un peu ambivalente qui pousse l'armée turque ou la Turquie ou les troupes turques à aller jusqu'à Raqqa. Et je crois que là, actuellement, la négociation avec les Américains, c'est sur ces terrains-là. Parce que Raqqa, c'est au-delà de la zone de sécurité que Marc...
Ça vous paraît possible? Parce qu'effectivement, ça, c'est des choses qu'on lit un peu dans la presse ces derniers jours. Vous pensez que l'armée turque pourrait aller sur Raqqa?
Les Américains semblent pousser. En tout cas, les forces armées syriennes semblent pousser. Et moi, je pense que c'est très aventureux. D'abord, l'armée turque ne connaît pas le terrain. Deuxièmement, les bases arrières sont de plus en plus lointaines. L'armée turque pourrait avoir, du coup, à affronter le YPG d'une manière frontale sur ce terrain-là. Et n'oublions pas que pour les Arabes syriens, y compris qui regardent avec d'un bon œil l'intervention limitée de la Turquie dans la région... La pénétration d'une manière profonde dans le territoire syrien de l'armée turque, pour les nationalistes arabes, sunnites, alévites ou turkmènes d'ailleurs, c'est le retour de l'ancien occupant. Donc du coup, je pense que ça pourrait être très aventureux. D'ailleurs, il y a une petite tension qui commence à monter par ailleurs. J'ai lu il y a quelques jours dans la presse spécialisée que une partie des politiques turques ambivalentes, on ne sait pas exactement comment, ils poussent aussi les Turcs les turcophones ou les turkmènes, les turcophones de Syrie à vouloir revendiquer une région. Alors ça peut être aussi un sujet d'affrontement encore plus fort entre les nationalistes arabes et la Turquie.
Yohanan Benaim.
Pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit par Ahmet İnsel, il faut quand même se rappeler que cette entrée de la Turquie en Syrie est une révolution en termes de doctrine militaire. C'est-à-dire que la Turquie, c'est toujours illustré par une volonté, et surtout l'armée, de non-intervention dans le voisinage immédiat, et en particulier vers Irak-Syrie. Alors, cette politique de non-intervention était justement légitimée par cette idée que la Turquie, du fait de son héritage ottoman, ne pouvait se retrouver dans une situation de confrontation sans réactiver chez ses voisins arabes des sentiments d'une violence qui nuirait à la politique turque dans la région. Et donc, par rapport à la question de Raqqa, en fait, je pense que il semblerait que l'un des objectifs de cette intervention militaire turque soit en fait de proposer aux Américains une option alternative au YPG, puisque quand même les YPG sont les ennemis de tout le monde, sauf que jusqu'à présent ils étaient très utiles pour le régime syrien puisqu'ils permettaient de contrôler des territoires qui ne soient pas liés à l'opposition. Ils étaient très utiles, et ils sont toujours très utiles pour les Américains, dans la lutte contre Daesh. Et donc, jusqu'à présent, la principale force militaire qui était à même d'être la force qui allait mettre Daesh en dehors de Raqqa était les YPG avec des alliés arabes, des milices arabes. Or, la Turquie, en intervenant et en montrant qu'elle est capable d'avoir des forces, notamment les brigades turkmènes et d'autres alliés islamistes, des groupes, des milices de l'armée syrienne libre, la Turquie se fait force de proposition sur le dossier de Raqqa et en disant concrètement une alternative est possible et nous pouvons conquérir Raqqa avec ces alliés-là. Est-ce que la Turquie va aller jusque-là ? Je partage le scepticisme d'Ahmet İnsel sur la question. Contrôler la bande frontière, c'est une chose.
Faire tomber l'État islamique.
Entrer à ce point au sein du territoire, c'en est une autre.
Ouais. Marc Semo.
Oui, juste un point là-dessus. Évidemment, pour l'armée turque, aller jusqu'à Raqqa serait plutôt aventureux. Mais il y a une autre option. On en revient à la zone de sécurité, qui est celle d'utiliser cette zone
comme
base arrière pour réellement créer aujourd'hui une force rebelle, modérée, globalement équipée par les Occidentaux, contrôlée par les Occidentaux et par les Turcs, qui servirait à aller jusqu'à Raqqa.
Et qui on met dans cette force ?
On récupère justement une partie de ces groupes qui se battent à Alep, qui se battent à Idlib et tout. C'est aussi le non-dit de l'accord russo-américain, c'est-à-dire l'idée c'est de prendre le maximum de gens qui aujourd'hui sont dans l'armée de la conquête et les retirer de toutes les tentations djihadistes pour essayer de monter ça. On en revient donc à cette zone de sécurité qui aurait été effectivement quelque chose qu'on aurait pu faire bien avant. On aurait pu le faire à l'époque, au début de la guerre même, avec une protection OTAN plus qu'une protection russe. Mais c'est effectivement quelque chose qui est en train de changer la donne du conflit avec juste une inconnue, la question d'Alep. C'est-à-dire, effectivement, le régime veut Alep. C'est une manière de symboliser la reconquête de la Syrie utile. Et le vrai dilemme n'est pas tant sur qui ira jusqu'à Raqqa, parce que globalement, cette force peut être montée avec la rébellion modérée. La vraie question, ça va être ensuite, quid du sort d'Alep.
Yohanan Benaim et ensuite Ahmet İnsel. Yohanan Benaim.
Concernant, pour continuer sur ce que disait Marc Semo, concernant les formations militaires au sein de cette éventuelle coalition, la Turquie peut compter, ou disons, à mon avis, il y a trois idées. Premièrement, le transfert qui a été évoqué de groupes, en fait, via la Turquie vers ces régions-là. Donc, on contourne le canton d'Afrin pour faire passer des groupes de ce côté-là. L'idée que les groupes miliciens arabes qui s'étaient liés au YPG au sein des SDF retournent leur veste.
Ce qu'ils ont commencé à faire.
En partie. C'est pas encore confirmé partout. Mais en effet, c'est une dynamique qui s'observe en partie. Et donc, en fait, un retournement des alliances locales sur le terrain. Et troisièmement, on a évoqué la force turkmène. Il faut se souvenir que la constitution de groupes miliciens avec l'aide de populations turcophones est une pratique de politique étrangère que la Turquie a déjà fait en Irak. C'est exactement sur ce modèle qu'elle a construit sa politique étrangère depuis les années 90, en favorisant notamment la création du Front turkmène d'Irak. Et à l'époque, c'était aussi associé à des milices qui étaient en fait des supplétifs pour l'armée turque dans la région.
Je passe la parole à Ahmet İnsel et puis ensuite j'aurai une question pour revenir un tout petit peu sur l'Irak et la question kurde pour comprendre les liens justement entre Ankara et les Kurdes irakiens. Mais Ahmet İnsel.
Oui, pour Alep, effectivement, la question principale, c'est le nœud et Alep. Il est possible que Alep soit un peu une ville divisée, in fine, un peu comme un Berlin du XXIe siècle. La Turquie a l'habitude de gérer une autre ville comme la Nicosie, par exemple, depuis des décennies. Et donc, il est possible que le Alep soit partagé et pas Damas. Évidemment, le Damas est le cœur du pouvoir. Pour les forces turkmènes, il y a eu des affrontements actuellement, récemment, depuis quelques jours, semble-t-il, entre les forces turkmènes et les forces arabes. Autrement dit, il y a aussi une tension locale. Les retournements de situation et retournements de veste sont fantastiques dans cette région. Donc, du coup, faire des pronostics de long terme, c'est extrêmement difficile. Et d'ailleurs, peut-être, ce qui rend la perspective d'une stabilisation du pays devient très très difficile, principalement à cause de ça. Si on regarde globalement la carte, par contre, il y a une chose qui est intéressante. À part le Daesh, globalement, depuis un an et demi, la carte, la géographie syrienne confessionnelle entre trois forces reste à peu près stable. À part Alep, où on gagne quelques rues, on perd quelques rues. Mais à part ça, ça reste à peu près stable. Autrement dit, je pense que le seul espoir que nous avons, à part le Daesh, pour qu'il y ait, pour que le processus de cessez-le-feu continue et qu'un processus de paix, je dirais pas, mais d'un cessez-le-feu permanent puisse s'installer, c'est que les partis ont grosso modo compris qu'ils ne peuvent pas gagner plus de territoire. Et ils reconnaissent à peu près ce partage. Dans la tête des gens, ce partage commence à s'installer et le YPG, je pense, commence à accepter de se retirer à l'est de l'Euphrate, qui est sa région démographiquement naturelle pour contrôler, et Afrin. Et le reste, effectivement, commence à se former par des administrations locales ad hoc.
Alors, pour comprendre encore un tout petit peu, j'ai une petite question, ensuite je vous passe la parole, Marc Semo, mais pour bien comprendre ce jeu d'alliance, on l'a compris, donc PKK et les YPG sont en gros les Kurdes ennemis, considérés comme ennemis d'Ankara. Juste avant de lancer son opération militaire en Syrie, le président du Kurdistan irakien, donc Massoud Barzani, s'est rendu à Ankara. Alors, comment comprendre ça? Est-ce qu'il faut en conclure que, d'une certaine manière, il y a une alliance, disons, de circonstances entre le Kurdistan irakien et le régime turc?
Alors,
Yohan Benaïm. Allez-y.
Pour que ce soit clair pour vos auditeurs, on a tendance parfois dans les médias à simplifier le champ politique et à ethniciser des positions politiques. Donc, c'est un vrai problème pour pouvoir lire la région. C'est-à-dire que les acteurs politiques n'agissent pas parce qu'ils sont kurdes, ils agissent parce qu'ils ont des agendas politiques différenciés. Donc, concrètement, les Kurdes d'Irak ont leurs propres agendas, et ce n'est pas parce qu'ils partagent une identité commune avec le PKK qu'ils sont sur les mêmes politiques. Bien au contraire, la région autonome du Kurdistan d'Irak est aujourd'hui présidée par Massoud Barzani, qui est le président du PDK, donc qui est un parti politique qui est proche, qui a construit aujourd'hui son autonomie en partie du fait de son alliance avec Ankara et avec le gouvernement AKP. Barzani s'est placé à la fois en intermédiaire, parfois, entre le PKK et l'AKP, mais aussi en solution alternative, au sens où ils ont à l'échelle régionale, un partenariat s'est mis en place sur trois piliers entre le PDK de Massoud Barzani en Irak et l'AKP de Recep Tayyip Erdogan. Ces trois piliers sont les suivants. Premièrement, en termes économiques, ce sont des partenaires économiques très très importants, et pour l'un et pour l'autre. La Turquie étant une porte permettant de désenclaver la région du Kurdistan d'Irak. À cela s'ajoute la question énergétique, puisque c'est par la Turquie que le KRG exporte son pétrole. Deuxième pilier, c'est en termes politiques, puisque l'AKP se prévaut d'être le parti qui fait le plus pour la résolution de la question kurde en Turquie. Du moins, c'était son option. Et donc, il valorisait ce lien avec le PDK de Massoud Barzani en disant « Voilà, je suis celui qui va réformer la question kurde en Turquie, en m'appuyant notamment sur des acteurs régionaux tels que Massoud Barzani. » Troisième point, une politique stratégique à l'échelle régionale de containment, d'endiguement du PKK en Syrie. et l'AKP et le PDK se sont toujours, ont toujours critiqué le PKK en Syrie, donc le PYD, du fait de son caractère autoritaire par rapport aux autres partis kurdes syriens, premièrement, et du fait qu'il ne rejoignait pas l'opposition syrienne. Ça a des conséquences.
C'est un jeu d'alliance extrêmement subtil, hein, tout ça.
Assez ouvert en vérité, parce que ça a des conséquences très assez concrètes, ouvert, qui est une, physiquement un endiguement économique, une politique de blocus. Puisque aujourd'hui, les liens pour passer du Kurdistan d'Irak au Kurdistan syrien, c'est extrêmement compliqué. Et donc, ça asphyxie économiquement ces régions tenues par les YPG.
Marc Semo.
Juste un petit point, toujours pour justement différencier l'identité ethnique et l'identité politique. D'abord, il faut rappeler que le YPG ou le PYD, le parti kurde syrien proche du PKK, a conquis l'hégémonie par la force dans la région, contre d'autres mouvements kurdes syriens qui étaient beaucoup plus proches de Barzani et de l'Irak. Ensuite, il y a un autre facteur qu'il ne faut pas oublier, qu'il existe aussi des islamistes kurdes radicaux. À Kobané, beaucoup des combattants de l'État islamique qui attaquaient Kobané étaient des Kurdes. Les attentats qui ont été commis en Turquie par l'État islamique l'ont été par des Kurdes radicalisés islamistes.
Des Kurdes de Turquie.
Des Kurdes de Turquie. Donc, là aussi, voilà, il faut faire très attention à ne pas simplifier en disant les Kurdes d'un côté, etc. etc.
Ouais, c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye de complexifier. Yonan Benaïm, ensuite Ahmed Insal, vous vouliez
juste
petite intervention.
Cette question de la présence de population, enfin d'individus d'origine kurde de Turquie au sein de Daesh ne doit pas, enfin doit en fait nous faire comprendre que l'un des principaux problèmes de la Turquie aujourd'hui, c'est que c'est le seul pays avec l'Irak à avoir au sein, à avoir en Syrie un nombre aussi important de ces citoyens qui se battent dans des groupes opposés. Il y a énormément de citoyens turcs qui se battent dans les rangs du PKK, et il y a énormément de citoyens turcs qui se battent au sein des groupes islamistes et au sein de Daesh. Or ça va avoir des répercussions sur le moyen et sur le long terme lorsque ces personnes vont revenir en Turquie.
Ahmed Insal.
Oui, ça c'est justement la grande peur en Turquie, c'est le retour comme en France ou en Angleterre, mais beaucoup plus en Turquie.
On parle de milliers de personnes.
Oui, on parle de milliers de personnes. Et en plus, la frontière est très proche. Quand quelqu'un rentre de la Syrie vers la Grande-Bretagne, bon, après, il est isolé. Alors qu'en Turquie, évidemment, l'isolement est tout relatif. Il y a deux facteurs qui sont inquiétants. D'une part, effectivement, le Daesh en Turquie a des cellules dormantes. On l'a bien vu. Et ces cellules dormantes, maintenant, commencent à être un peu réprimé par la police, mais pendant très longtemps, on découvre, on le disait, ça commence à être confirmé, il y avait une certaine complaisance vis-à-vis de l'organisation de Daesh en Turquie. Notamment, on découvre ça à Gaziantep, hein, la plaque tournante des opérations de Daesh à Gaziantep. Et les attentats ont été organisés depuis la Turquie par des militants de ressortissants de Turquie. Deuxièmement, c'est les affrontements avec le PKK se poursuivent d'une manière sanglante. Tous les jours, il y a des miliciens du village, des policiers, des gendarmes, des membres de la guérilla du PKK qui sont morts, plus des civils entre-temps. Et là, il y a un vrai rapport de force que l'État turc essaye de peut-être de préparer, comme dit Marc, le terrain pour recommencer une négociation, mais avec un PKK à genoux, notamment un PKK à genoux en Turquie et un PKK qui a perdu son aura et son superbe en Syrie.
Ahmed Insal, on dit aujourd'hui qu'il y a une forme de retour d'Erdogan au centre du jeu, ce qui est le cas. Marc nous rappelait tout à l'heure qu'il y a de la part de la Turquie ce désir de créer cette zone de sécurité dans le nord syrien qui permettrait quand même, in fine, de contenir l'afflux de migrants, de réfugiés. Est-ce que c'est pas une carte en moins pour Erdogan, un levier en moins pour faire chanter l'Europe ?
Les réfugiés ?
Absolument.
Oui, mais vous savez, quand il y en a 2 millions, donc si il y a 1 million qui rentre en Syrie, il y a toujours 1,5 million qui reste en Turquie.
D'accord, donc la carte reste là.
La carte reste là. Par contre, le plutôt la question kurde, je pense, va à long terme devenir important, parce que si les choses continuent, la répression continue en Turquie, c'est pas simplement les réfugiés syriens que les Européens vont accueillir, mais aussi des réfugiés le sortissant turc, principalement.
Et quand Erdogan dit à la télévision récemment qu'il pourrait décider de naturaliser les réfugiés syriens,
oui,
il est sérieux?
Oui, il est sérieux parce que ils envisagent, et d'ailleurs je pense que ce sera inévitable à long terme pour une partie, parce que une partie des réfugiés syriens sont déjà depuis 4-5 ans en Turquie. Il y a 70 à 80 000 enfants nés en Turquie de parents syriens. Je pense
que ce serait une bénédiction, alors pour le coup, ce serait le don de Dieu, mais pour Bruxelles.
C'est un don de Dieu pour Bruxelles, un don de Dieu pour Erdogan aussi, parce que du coup ça lui donnera un supplément d'électeurs fiables pendant très longtemps. Je crois que tout le monde est gagnant dans cette affaire-là.
Ouais.
Mais Erdogan, effectivement, le don du Dieu d'Erdogan, c'est retournement de situation. Ouais. On le voit au niveau international, au niveau à l'intérieur. En fait, il profite de cette situation par une répression massive en suspendant l'état de droit d'une manière éhontée pour consolider l'état AKP et de mettre en place un régime qui, à l'image du poutinisme, on peut peut-être commencer à parler maintenant d'erdoganisme.
Yohanan Benaïm, oui. Le mot de la fin, vraiment.
Juste un mot, oui. Pour continuer sur ce que vient de dire Ahmet Insel, il faut quand même comprendre que le dossier turc et le dossier syrien sur la question kurde sont extrêmement liés, et que cette répression sans aveugle, disons, du régime en Turquie, et l'incapacité sur le long terme, à mon avis, à accepter une présence kurde du PKK dans ces régions-là, rend très difficile, disons, un processus de paix sur le long terme.
Taarruzda olacan maruz biçiminiz biçimsiz kesmece karpuz laflarım ağır gelir sırtları kambur düşmanı geri çekin olmasın mağdur düşünmeden konuşuyor kanca ses ver benim gibi olabilen yok mudur harbi barbi bebek gibi konuşuyor abi sinirlerim çatladı diyor ki yarbi
yapın. Voyez Marc, on renoue avec le bon vieux rap de la fin de la table ronde, hein.
Absolument.
Merci beaucoup à tous nos invités, Ahmet İnsel, Yohanan Benaïm. Ahmet İnsel, je rappellerai la nouvelle Turquie d'Erdogan, du rêve démocratique à la dérive autoritaire, qui est parue l'année dernière à La Découverte. Minutes, l'heure sur France Culture, dans Culture Monde, de retrouver Brice Couturier et son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors, vous nous avez parlé cette semaine des menaces qui pèsent sur les libertés universitaires dans les pays anglo-saxons, sur la base d'une mise en question de la nature même du savoir, mais ces menaces prennent bien d'autres formes, d'ailleurs en Turquie par exemple.
Ben oui, mon partenaire WordCrunch me signale un article en provenance du quotidien turc Cumhuriyet, qui fait état du tournant pris en Turquie sous l'autorité du président Erdogan depuis 2012. Dans ce pays autrefois laïque, la présidence des affaires religieuses collabore dorénavant de manière officielle avec le ministère de l'Éducation. Les jardins d'enfants sont progressivement transformés en écoles coraniques afin que l'endoctrinement religieux commence dès 4 ans. De nombreuses écoles laïques ont été converties en imam hatip, théoriquement destinées à la formation des personnels religieux. Les garçons et les filles y sont strictement séparés et ces dernières subissent toutes sortes de discriminations. Les manuels scolaires les encouragent à préférer la maternité à une carrière professionnelle. Résultat, une explosion des maternités précoces parmi les élèves. WordCrunch m'indique aussi un article paru dans le numéro de juin de la revue The New Yorker. Ce reportage sur le vif dans une prestigieuse institution américaine d'enseignement supérieur, le Oberlin College, constitue une illustration presque caricaturale des critiques portées par Joanna Williams, jugez-en. Oberlin College, nommé d'après le pasteur protestant Jean-Frédéric Oberlin, peut s'enorgueillir d'avoir été le premier établissement américain du supérieur à avoir admis parmi ses étudiants des Noirs, 1835, et des filles, 1837. Oberlin est réputé pour son département d'études musicales. Ce collège, fidèle à cette vocation initiale, a été à la pointe du combat pour la mixité ethnique et le multiculturalisme. Mais celui-ci est désormais en butte à une critique de gauche. Certains l'accusent d'avoir fait de la culture de l'autre un produit de consommation, une marchandise de luxe. Ainsi, l'administration a été sommée d'escamoter une peinture murale créée par des étudiants d'une ancienne promotion sur l'un des murs du café des étudiants Cat in the Cream. Cette fresque, censée faire l'apologie du multiculturalisme, a été jugée exotisante. On y voyait en effet un noir qui jouait du saxophone. Pauvre John Coltrane. Les étudiants d'origine asiatique de leur côté ont organisé un sit-in pour protester contre les sushis qui leur sont offerts. Les ingrédients avec lesquels ils sont préparés ne sont pas authentiques. On se moque de leur culture, disent-ils. Les étudiants déclenchent des trigger warnings, avertissements, pour un oui ou pour un non. Il leur suffit de déclarer qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Ainsi, un étudiant souffrant de troubles bipolaires a déclenché un trigger warning contre l'étude de l'Antigone de Sophocle. Les causes que donne l'héroïne tragique de son suicide le mettaient, dit-il, mal à l'aise.
Alors, est-ce que les étudiants qui appartiennent aux minorités sont satisfaits de l'enseignement qu'ils reçoivent ?
Eh bien non. Globalement, ces étudiants appartenant aux minorités ethniques et sexuelles sont mécontents. Vous avez inclus des Noirs et des étudiants de couleur dans votre institution et vous les avez labellisés équité, inclusion et diversité. Mais en fait, cette institution fonctionne sur les prémices de l'impérialisme, du suprématisme blanc, du capitalisme, du capacitisme et de la transphobie, dit l'un d'eux. Alors capacitisme, j'explique, c'est la discrimination envers les gens qui ne souffrent pas d'une paralysie ou d'un trouble quelconque. C'est-à-dire les gens qui sont... Ça, on connaît pas ça encore en France, mais ça va venir. Hein. Alors le paradigme central qui sert de pivot à l'activisme général, c'est le concept d'intersectionnalité, c'est-à-dire de croisement qu'on peut réaliser en tant que victime entre les différents motifs d'oppression ressentis sur la base de l'identité. Réaction d'une professeure. Je me dis parfois que mes étudiants de gauche font le boulot de la droite. Et elle leur demande « Considérez-vous donc votre identité comme une sorte de savoir ?» Un autre enseignant explique « Des étudiants croient que leur genre, leur ethnicité, leur race ou quoi que ce soit leur confère une sorte de privilège cognitif. La soi-disant diversité aboutit à l'inverse. Au sein même des classes, les étudiants s'isolent en communautés ethniques closes qui refusent de communiquer entre elles. » Dans un article publié par la revue The Atlantic, deux sommités de la psychologie sociale américaine, les professeurs Greg Lukianoff et Jonathan Haidt, se sont penchés sur les causes de cette hypersensibilité des nouvelles générations d'étudiants. Ces jeunes gens, écrivent-ils, ont été éduqués avec un besoin de protection vindicatif. Ils ne sont pas équipés pour faire face aux défis du monde. C'est une génération qu'on a élevée en lui disant que la nation, fondamentalement, c'était une question de race, dit de son côté une professeure d'histoire. Et elle poursuit. On se trompe en confondant la génération du 11 septembre et les jeunes étudiants d'aujourd'hui sous le même label de « millennials ». En réalité, il s'agit de deux générations distinctes. Celle qui s'est formée après le 11 septembre, la guerre d'Irak et le krach financier de 2008. Ce sont des gens entrés dans l'âge adulte à une époque de grande instabilité et ça la donne des entrepreneurs à l'affût des opportunités. Les étudiants d'aujourd'hui, par contre, constituent une génération brûlot. Ils sont politiquement déçus et frustrés et leur idéologie est une manière d'exprimer un besoin d'hyperprotection.
Merci beaucoup Brice et merci de nous avoir éclairé toute cette semaine sur ce monde universitaire bien en danger hein, dans notre monde contemporain. Brice, merci beaucoup. On peut retrouver toutes vos chroniques sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un instant sur France Culture, justement, c'est Olivia Gesbert et sa grande table. Très belle journée, bon week-end et à lundi.